Et premier invité de ce 8-30 en cette rentrée 2020 sur Alpe 1, c'est Jean-Michel Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Maire de Tallard, candidat pour les élections sénatoriales, une candidature que vous avez dévoilée il y a quelques jours. Alors, on va spécifier pour les auditeurs, ces élections auront lieu le 27 septembre prochain. Il s'agit d'un scrutin universel indirect, ce sont les grands électeurs qui votent, à savoir les députés, les conseils départementaux, les délégués issus des conseils municipaux. Un vote qui est obligatoire, sinon c'est une amende de 100 euros. Et le scrutin se déroulera en deux tours sur une seule journée. 172 sénateurs seront renouvelés pour un mandat de 6 ans. Ce n'est pas la première fois que vous vous présentez, Jean-Michel Arnaud. Déjà en 2014, vous étiez présent, vous vous étiez retiré au second tour. C'est alors Jean-Yves Dussert qui avait été élu. Entre le Jean-Michel Arnaud de 2014 et celui de 2020, qu'est-ce qui a changé ?
L'expérience qui s'est renforcée et puis une sérénité issue d'un peu de recul de la vie politique partisane ces dernières années, puisque je suis aujourd'hui un élu indépendant, sans attache partisane. Et puis, les épreuves de la vie aussi, parce qu'il y en a eu un certain nombre durant ces dernières années. Et surtout, le maintien d'un lien très important quotidien, grâce et à travers l'Association départementale des maires, avec les 162 maires des Hautes-Alpes, les conseils municipaux, les adjoints, qui ont vécu notamment ces deux dernières années des crises successives, les gilets jaunes, le Covid, de manière plus profonde et structurelle, la baisse des dotations ces dernières années, avec une attente toujours forte, présente, une confiance aussi forte et présente des citoyens à l'égard des élus municipaux. Et donc mon travail a été toutes ces années d'abord de gérer avec efficacité ma commune à Tallard, de travailler à l'émergence d'une nouvelle intercommunalité avec Gap Tallard-Durance, l'agglomération Gap Tallard-Durance, et puis accompagner les maires au quotidien dans leurs besoins et leurs attentes.
Selon vous, avec votre fonction de président de l'Association des maires dans les Hautes-Alpes, c'est vous qui êtes le plus à même de représenter ces élus au sein du Sénat ?
C'est d'abord aux 447 grands électeurs d'en décider. Je crois qu'il faut être respectueux des choix de chacun. Ce que je sais simplement, c'est que en ayant été aux côtés de Pierre-Bernard Raymond comme suppléant durant 6 ans lorsqu'il était sénateur, j'ai également travaillé avec Marcel Lesbrosse au tout début de ma vie professionnelle lorsqu'il lui-même était sénateur. J'ai également une écoute, une connaissance des dossiers locaux qui me permettent de penser qu'on peut faire mieux au Sénat, on peut certainement défendre quelques sujets qui nous tiennent à cœur.
Lesquels ?
Par exemple, dans le cadre du projet de loi qui va être en discussion à l'automne au Parlement, donc au Sénat, le projet 3D, décentralisation, déconcentration, différenciation, qui est en fait le troisième étage de la fusée de l'organisation territoriale en France après la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, la loi engagement et proximité de décembre dernier. C'est finalement le dernier rendez-vous au moins de la mandature et du gouvernement, des gouvernements sous la présidence d'Emmanuel Macron, durant le débat durant lequel on peut faire avancer quelques causes. Parmi ces causes, un sujet important, c'est la liberté locale de choix en matière d'exercice de compétences. Lorsque je suis au contact avec les collègues maires, dans une immense majorité d'entre eux, une inquiétude, et nous avons d'ailleurs mené des combats l'année dernière sur ce sujet, y compris dans l'agglomération, c'est de garder la liberté locale de choix sur la compétence eau, qui est l'ADN de la commune, qui est l'ADN de la relation entre les agriculteurs, les usagers de l'eau, les citoyens et leur équipe municipale. Or, la loi NOTRe a décidé le transfert de la compétence immédiate au 1er janvier 2020 pour l'agglomération de Gap-Tallard-Durance, pour toutes les agglomérations de France et pour les intercommunalités en 2026. Or, je sens bien que les collègues maires veulent avoir le choix de conserver ou pas cette compétence. Et donc, c'est un sujet sur lequel, évidemment, il faudra travailler. Et un deuxième sujet, évidemment, très important, c'est la différenciation. Là, c'est plutôt dans le cadre des lois de finances de chaque année, mais un combat mené avec l'AMF au niveau national, avec le Sénat, qui est l'Assemblée des collectivités locales de France. C'est bien ça, son rôle. C'est porter aussi les préoccupations des collectivités locales de France. C'est le fossé qu'il y a entre les dotations par habitant de fonctionnement attribuées par l'État aux collectivités locales rurales, comparé aux dotations par habitant accordées aux grandes collectivités urbaines de France, notamment les métropoles. On est dans un rapport de 1 à 2. C'est-à-dire que grosso modo, un haut alpin touche 100 euros par habitant quand un habitant de la région parisienne touche 200 ou 250, c'est-à-dire le double. Donc évidemment, ça c'est anormal parce que ça minore les moyens mis à la disposition des territoires ruraux pour asseoir des services à la population, des services municipaux, mais aussi accompagner la modernisation, l'équipement de leur territoire. Et puis, il y a un troisième sujet qui me paraît important, c'est de défendre évidemment la spécificité montagne. Et à travers cette spécificité montagne, ce qui fait finalement la force des territoires ruraux. Parce que je ne crois pas au fatalisme du déclin des zones rurales. Les Hautes-Alpes ont incontestablement des atouts touristiques, des atouts environnementaux, des atouts grâce au réseau non délocalisable des agriculteurs, des artisans, des petits commerçants. Il faut accompagner, notamment dans la période difficile de crise que nous vivons avec le Covid, il faut accompagner davantage ces professions qui font la force des Hautes-Alpes 365 jours sur 365 et qui constituent la colonne vertébrale de notre attractivité touristique, parce que s'il n'y a pas de vie à l'année, il ne peut pas y avoir une capacité touristique correspondant aux attentes de nos clients. Et vous avez remarqué, et les auditeurs ont remarqué, que cet été, les clients sont au rendez-vous, donc il faut des fonds de vallée actifs, il faut des campagnes actives, et donc pour cela, il faut des actifs, et donc des personnes qui puissent travailler dans de bonnes conditions dans les territoires ruraux.
Vous le dites, je suis un élu indépendant sans attache partisane. On rappelle quand même que vous avez un passé au sein de la droite.
Oui, l'UDF notamment, Parti centriste.
Voilà, et Parti centriste. Demain, si vous êtes élu, vous serez inscrit dans quel groupe ?
Bon, je crois, très honnêtement, je vais répondre à votre question, que d'abord, cette question-là est difficile à répondre précisément aujourd'hui, puisqu'on ne connaît pas la composition future du Sénat. Mais ce n'est pas une formule pour ne pas répondre à la question. Donc je siégerai dans un groupe central. Il y a trois groupes au Sénat central. Donc je pense à l'Union centriste, au groupe RDSE, ou au groupe, s'il existe encore, proche du gouvernement. Donc il y a trois groupes en la matière. Moi, ma démarche, elle est d'abord orientée sur le territoire.
Vous vous sentez proche du gouvernement ?
Non, je crois qu'il y a sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question que j'évoquais tout à l'heure de la liberté locale de choix, des sujets qui doivent être améliorés. Je crois que ce qu'il faut surtout intégrer, c'est le fait que le Sénat a un rôle de contrôle du gouvernement, des gouvernements, pas spécialement que celui-ci, mais celui-ci aussi. Et quand je vois finalement une Assemblée nationale qui est dans une démarche, finalement, compte tenu de la majorité absolue des membres proches du gouvernement au sein de l'Assemblée nationale, je crois que le Sénat a un vrai rôle d'équilibre, mais je crois qu'il a surtout, et c'est peut-être la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale, au Sénat on discute, quel que soit l'endroit où on siège, et on est force de proposition et on défend surtout les territoires et la ruralité. C'est surtout ça qui est important, me semble-t-il.
En 2014, vous disiez, les élections, je continue à penser que nous avons besoin de relève dans ce département, de nouveaux visages et de dynamisme au niveau national. 6 ans après, est-ce que vous êtes prêt à redire cette phrase ?
Oui, oui, dans beaucoup de domaines, mais ce mot de relève... peut concerner le champ politique, mais pas seulement. On a besoin de jeunes chefs d'entreprise, on a besoin d'un engagement plus important aussi de femmes dirigeantes, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou que ce soit dans l'engagement syndical. Le principe même de projection dans l'avenir d'un territoire, c'est le renouvellement des générations. Je serai probablement le plus jeune ou un des plus jeunes candidats à ces élections sénatoriales, et pourtant j'ai 54 ans, donc de l'expérience. On voit bien que cette phrase de 2014 conserve toute son actualité.
Votre candidature, elle ne rassemble pas. La semaine dernière, Roger Didier a pris la décision de ne pas se présenter. Du côté de la droite, les portes s'ouvrent. Jean-Marie Bernard réfléchit à une potentielle candidature. Chantal Emeaude également. Ne pas faire l'unanimité auprès des représentants politiques, ça symbolise quoi ?
D'abord, je note que si je ne fais pas l'unanimité, pas davantage les personnes que vous venez de signaler, d'indiquer, puisque eux-mêmes ne sont pas en capacité de faire du rassemblement. Concernant Roger Didier, je vais vous en parler avec sincérité. Je travaille avec lui depuis de nombreuses années, en bonne intelligence, à l'agglo, avec la ville de Gap. J'en suis d'ailleurs son vice-président, donc nous avançons ensemble et je travaillerai avec Roger Didier, comme d'ailleurs je travaillerai avec tous les élus n'étant pas enfermé dans un champ partisan. Et celles et ceux qui connaissent mon travail dans mon territoire d'élection et au-delà, dans les responsabilités que j'ai exercées toutes ces années au département et ensuite et encore et toujours à l'Association des maires, savent que je travaille finalement avec deux modèles qui, pour moi, même trois devrais-je dire, qui ont sculpté et qui continuent à accompagner mon parcours politique, Marcel Lesbrosse en son temps, pour les plus anciens, Pierre-Bernard Raymond, dont j'ai été le suppléant, et Joël Giraud, qui fait honneur au département, lorsque on sait que depuis quasiment les années 80, nous n'avions plus de représentants au niveau national au gouvernement.
En tout cas, l'animosité politique avec Jean-Marie Bernard n'est pas éteinte depuis 2014.
Il n'y a jamais eu d'animosité politique, interrogez-le. Moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que tout le monde a légitimité à être candidat, et je fais pleinement confiance aux 447 grands électeurs pour déterminer par leur choix l'élu qui peut les représenter au niveau national au Sénat. Je pense que cet élu doit avoir l'expérience, ne doit pas, me semble-t-il, être trop éloigné de l'échelon communal. Vaut mieux qu'il soit élu municipal, maire, qu'ancien maire ou ancien élu municipal. Et je pense également qu'il est important que cet élu puisse travailler avec tous les élus et notamment avec Joël Giraud au secrétariat d'État à la ruralité, parce que nous aurons besoin, dans le cadre de cette fenêtre d'opportunité, de présence au gouvernement, également de présence forte dans les territoires d'élus compétents, de pouvoir faire avancer nos dossiers, notamment ceux que j'évoquais tout à l'heure, mais bien d'autres.
En 2014, vous aviez pris un engagement, celui de vous retirer au second tour si vous n'arriviez pas en tête. Vous l'aviez fait, justement. Est-ce que vous êtes prêt aussi, en 2020, à prendre ce même engagement ?
Vous savez, vous avez raison de rappeler la loyauté que j'ai eue à l'égard de Jean-Yves Dussert en 2014. À l'issue du premier tour, je me suis retiré et cela a permis à Jean-Yves Dussert, parce que les choses étaient claires entre nous, de pouvoir gagner et donc permettre son élection. Aujourd'hui, avant le deuxième tour, il y a un premier tour et je ferai tout. Pour convaincre les 447 grands électeurs de me positionner en première place à l'issue du premier tour. Et cette question vaudra également pour celles et ceux qui seront éventuellement plus loin, mal classés. Et j'espère qu'ils retiendront l'esprit de loyauté qui a été le mien en 2014 à l'égard de Jean-Yves Dussert.
Vous ne prenez pas d'engagement de retrait ?
Non, j'ai trop de respect pour les 447 grands électeurs et je pense que c'est à eux de décider qui ils veulent comme sénateurs et le résultat du premier tour marquera très, très fortement leur volonté.
Jean-Michel Arnaud, vous êtes prêt à laisser les clés d'Amérique tout à l'heure puisqu'on rappelle que le cumul des mandats est interdit, y compris avec un mandat local ?
Oui, enfin, je resterai conseiller municipal et conseiller communautaire de l'agglomération de Gap-Talard-Durance si je devais être élu. Et j'ai la chance de compter depuis 2001, ma première élection en tant que maire de Talard, sur une équipe solide, sur des adjoints, premier adjoint Daniel Borel, solide. Je resterai élu municipal de Talard, proche de ma population, ainsi qu'élu communautaire pour continuer à œuvrer et à travailler dans une bonne intelligence avec les élus de Gap et notamment le premier d'entre eux, Roger Didier, président de notre agglomération.
Merci beaucoup Jean-Michel Arnaud. Je rappelle que vous êtes maire de Talard, président de l'Association des maires dans les Hautes-Alpes et donc candidat pour ces élections sénatoriales. Un élu indépendant, sans attache partisane, je le rappelle, c'est vous qui venez de...
Mais avec un ancrage territorial fort, ce qui est important dans cette élection.
Merci Jean-Michel Arnaud.